Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show de vent TGS Spring Break avec Adrien Canino. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Bonjour Sacha.
Bonjour Vanessa.
Et oui, le TGS Spring Break, eh bien oui. Ah, ça y est, hein, on est sur le retour le 13 et 14 juin. On a vécu un week-end fou. Et bah là, on vous en parle. Vous avez déjà pu écouter l'interview d'Éric Boad qui faisait partie du groupe Les Musclés. Bah, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller le faire sur notre site internet ou notre application Esprit Occitanie. Vous ne serez pas déçus du voyage et vous apprendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, on va partir eh bien, avec nos éditions Sud-Arène, dont on a l'habitude de mettre les autrices et auteurs en avant. À chaque fois, on en rencontre des petits nouveaux qui viennent agrandir le groupe et puis aussi des anciens qui sortent de nouveaux livres. Et vous nous connaissez, hein, on aime bien mettre en avant. C'est vraiment un amour de cette maison d'édition pour toute l'équipe, pour bien leur sérieux, leur professionnalisme, leur gentillesse aussi. Enfin, et c'est toujours un bonheur de découvrir de nouveaux auteurs, dont Adrien Canino avec son roman « Ceux d'avant, aura et obédience ». Et je vous propose de l'écouter en interview. Bonjour Adrien.
Bonjour.
On est au TGS Spring Break et tu viens présenter ton livre « Ceux d'avant, aura et obédience », c'est ça ?
Obédience.
Obédience.
Oui. Déjà, merci de m'avoir invité pour cette interview. Effectivement, c'est mon premier roman, « Ceux d'avant, aura et obédience ». Et c'est ma deuxième convention. Mon premier, c'était le TGS de Montpellier, maintenant ici, au Spring Break de Toulouse. Oui.
Comment t'en es venu à écrire ce livre ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de coucher tes idées sur du papier ?
Eh bien, ça fait pas mal de temps que j'ai, je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs en réalité, des histoires en tête, etc. Mais je pense, comme beaucoup de gens, je pense que beaucoup de gens en réalité ont des histoires en tête. Mm-hmm. Et beaucoup de gens, je pense, n'ont pas forcément le temps, la motivation d'écrire. Mais aussi, il y a un peu cette idée que de toute façon, écrire c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, peut-être que ça va être difficile de traiter, etc. Et en fait, un jour, j'ai juste croisé, c'était sur internet, j'ai parlé avec une personne qui était auteur. Et qui écrivait beaucoup, mais qui n'avait jamais cherché à se faire éditer. Et elle avait plus ou moins donné. En fait, quand je lui parlais, que moi aussi j'avais des histoires, elle m'a donné comme challenge de vas-y, écris, et on cherchera tous les deux à se faire éditer, comme ça nous motivera un peu. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Voilà ce qui m'a motivé au départ à écrire. C'était un peu un challenge, parce que ça m'a aussi permis d'évaluer ma capacité à écrire à l'époque, et voilà.
Le style science-fiction, fantastique, un peu apocalyptique, ça s'est venu par rapport à des films, des séries, ou juste des lectures, ou même juste une envie profonde ?
Eh bien, j'ai pas mal d'influences culturelles en réalité. Déjà, moi, en grandissant, j'ai pas mal baigné dans l'univers cinéma, jeux vidéo, en grandissant, quand j'étais enfant, adolescent, etc. Pas mal de trucs de super-héros et tout ça. Donc effectivement, c'est pas mal de science-fiction, pas mal de dystopie, de fantasy, de fantastique. Après, pour ce roman particulièrement, il n'y a pas une influence claire et nette. Il n'y a pas une figure que j'ai vraiment suivie. J'ai beaucoup d'influences. Mais j'ai des influences différentes en fonction des scènes, des influences différentes en fonction du style, etc. Par exemple, j'aime bien m'inspirer un petit peu de Stephen King dans sa façon d'écrire, pour les parties un peu anticipation du roman. J'aime bien m'inspirer de certains jeux vidéo quand il s'agit d'autres moments. Parfois j'écris en regardant Kaamelott, par exemple.
Oh, bah oui.
Bon moyen de s'inspirer pour des dialogues.
Oui.
Voilà.
Pour un peu de légèreté.
Exactement. dans Kaamelott, vous savez, il y avait cette façon un peu franchouillade de parler, mais aussi une façon très dynamique, tac au tac.
Ah oui.
Ça, en réalité, ça peut être inspirant. Mes personnages parlent très différemment, mais peu importe. Une dynamique peut être inspirante. Voilà. Après, voilà, si je passais mon temps à lister toutes les influences que j'ai pu avoir, on est pas très sans doute plein d'interviews, mais voilà. Exactement.
On est avec ce personnage, Aura. Oui. Il va se passer un événement, une explosion. Et elle va voir ce qui va se dérouler. Et en fait, toutes les personnes autour vont être arrêtées, comme dans une bulle. Comment on a cette idée de début de roman où on se dit bon bah voilà je vais placer et en fait il y a une entité, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont des pouvoirs et qui peuvent relancer le temps, comment ça se joue?
Alors ils sont pas exactement arrêtés, ils sont plutôt hypnotisés. Alors comment est-ce que j'ai eu l'idée?
Ils sont sous emprise en fait.
C'est ça. Alors il y a du coup il y a deux parties. Comment j'ai eu l'idée? La première chose c'est que au départ j'ai plutôt une idée d'un concept. Le concept des pouvoirs, il s'appelle les Ekas dans le livre. Et en fait, j'ai plusieurs idées autour de ce concept-là, c'est un peu une idée bac à sable. Et j'avais une idée de quelque chose à raconter, un thème. Et ensuite, une fois que vous avez le concept et le thème, derrière, il vous faut un storytelling, il vous faut une narration, il vous faut un scénario. Ça, c'est le scénario, mais c'est pas la première chose qui m'est venue. Moi, ce que j'avais en tête, c'était donc j'avais un concept. J'aimerais bien raconter un personnage qui a subi telle ou telle problématique. Ici, en l'occurrence, c'est un personnage qui va évoluer
à travers.
Oui, et au travers de différents stades de souffrance, on va dire. C'est un peu ça le thème de ce personnage.
Ah ouais, c'est sombre quand même. Hein.
C'est plutôt sombre. oui. Et du coup, voilà. Donc,
je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas
pour illustrer
donner
ça.
Une certaine prestance et tout, mais ouais. À partir de quel âge on conseille ceux d'avant, Aura et Obédience?
Alors, il n'y a pas d'âge officiel. Moi, personnellement, je ne le conseillerais pas avant 12-14 ans. Parce qu'il peut y avoir des scènes un peu choc, c'est-à-dire que ça va peut-être paraître fort, mais il y a des scènes, il y a une scène principalement de torture.
Ah oui, quand même.
Mais bon, c'est pas de la torture atroce. Hein.
C'est plus imagé.
C'est assez imagé. Quelqu'un est en train de souffrir, mais c'est pas gore ou autre chose. C'est pas. Voilà, on peut voir pire dans les jeux vidéo, on va dire. Mais oui, voilà, avant 10-14 ans, ça peut être un peu choc. Et aussi le style d'écriture. J'aime bien avoir un style un peu lyrique, parfois descriptif. Je pense que des jeunes lecteurs seraient un peu moins touchés par ça.
T'aimes apporter du détail à des choses pour que ce soit un peu plus intérieur.
J'aime bien les symboles. J'aime bien les moments qui vont servir à poser une ambiance. C'est-à-dire que je peux passer une page à décrire une robe. Juste parce qu'en réalité, la robe, on s'en fiche. Ce que je veux décrire, c'est plutôt la psychologie d'un personnage à ce moment-là, au travers d'un objet. Voilà, ça peut m'arriver de faire ça. J'aime bien faire ça. Mais je me souviens que quand moi, j'étais un jeune lecteur, quand j'avais 10 ans, que je lisais Harry Potter, oui. J'aimais pas forcément lire ça.
Oui, on passait un peu les trucs voilà, de détail.
C'est ça, ouais.
Mais on s'y plonge après, parce que c'est plus intéressant, et on découvre justement la philosophie des personnages grâce aux détails, même des paysages qui peuvent apporter énormément.
Oui, et en fait, alors c'est jamais dit clairement, mais je pense que c'est plus ou moins compréhensible pour des lecteurs, notamment des lecteurs qui rentrent dedans. En fait, tout ce qui est narré, c'est narré au travers du prisme des sensations du personnage principal.
D'accord.
Donc, quand on dit « Ah, le soleil tape fort », enfin, quand le narrateur dit ça, c'est pas que le soleil tape fort. C'est que le personnage principal, il peut pas supporter le soleil. Voilà. C'est pas dit clairement, mais c'est ça, en fait, tout le long. Quand on dit « Ah, ce personnage-là, il a un joli sourire », c'est pas qu'il a un joli sourire. C'est que le personnage principal le trouve joli. Voilà. Donc, oui.
Tout ce qui se passe, en fait, est de la vue d'Aura.
C'est ça. Alors, c'est à la troisième personne, mais oui, c'est quand même du point de vue des sentiments, des sensations d'Aura, oui. Oui. Et c'est un personnage... c'est pas vraiment le personnage rayonnant. On l'a dit, c'est un peu sombre. Et en fait, pour donner un petit peu un pitch
mais
petit peu
même,
différent...
Mais quand même, il y a d'autres personnages, quand même.
Justement. En gros, imaginez que quand vous fermez les yeux, pour vous endormir le soir... un monstre apparaît pour vous faire souffrir, pour vous torturer même. Et plus longtemps vous dormez, et plus vous souffrez. Vous pouvez même avoir jusqu'à des séquelles physiques. C'est le cas du personnage principal. Quand elle s'endort trop longtemps, c'est ce qui lui arrive. Du coup, elle dort quasiment jamais. Et dans ce monde-là, donc, vous l'avez mentionné, il y a des personnages, des gens, qui ont des pouvoirs. Ça s'appelle des Zeka dans le livre. Alors ces Zeka sont très très rares. Et ils permettent de voir des choses ou de contrôler des choses à distance. Et c'est le cas du personnage principal. Et elle est convaincue que ce monstre qui apparaît quand elle dort, c'est lié à son pouvoir. Et un jour... à Paris, tout le monde se retrouve comme hypnotisé. Il va y avoir une lueur dans le ciel, et personne ne va voir cette lueur, à part elle. Il semble que cette lueur hypnotise tout le monde. Et, en fait, un héros plus lumineux chercherait à sauver tout le monde. C'est pas comme ça qu'elle va penser. Elle va se dire, il y a clairement un autre détenteur d'un pouvoir comme moi, quelque part, qui hypnotise tout le monde. Quelqu'un de très puissant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce gars-là, cette personne-là, pour réussir à m'extirper de ma condition avec ce monstre. Et c'est ça qui va la motiver. Réussir à retrouver ce puissant détenteur de pouvoir.
En fait, sa détresse personnelle avant le sauvetage du monde.
Mais elle va être accompagnée par deux autres personnages qui sont bien plus moraux qu'elle. Et en fait, c'est eux qui vont la faire évoluer.
Quand même, merci. Ah. J'ai commencé à me dire, c'est super sombre. Oui. Elle est narcissique.
Elle est aussi très ronchonne, parce qu'elle ne dort pas.
Et oui, c'est ça.
Voilà.
Bon, circonstances atténuantes, mais quand même. Oui.
Donc effectivement, elle est accompagnée par d'autres personnages qui vont l'aider à s'assouplir un peu et lui montrer un petit peu plus la voie vers des choses qui se font et qui ne se font pas.
Bon, alors, on peut le trouver les éditions Sudarène, c'est ça ?
C'est ça, aux éditions Sudarène. C'est aussi trouvable en Fnac, Amazon, librairie, commander en librairie, etc. Oui.
Les prochaines dédicaces, il y en a ?
J'en ai peut-être une, effectivement, à Bordeaux, au Leclerc de Saint-Médard, si je ne me trompe pas, en août. J'en ai une autre en octobre au TGS. Alors c'est au Paris Manga à Paris.
Oh.
Et à confirmer peut-être aussi encore une fois à Toulouse ici fin novembre pour le TGS principal.
Toulouse Game Show.
C'est ça. Ouais.
Ça marche. Bon, ben merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos lecteurs pour que ça leur donne envie de lire ton livre ? Qu'est-ce que une impulsion, une mise en bouche
C'est un roman, alors déjà, qui s'inscrit dans un univers assez large en termes de concept, mais ce roman peut se suffire à lui seul, même si j'ai d'autres idées dans cet univers. Donc il ne faut pas qu'ils aient peur de se dire...
Ah, il y aura un tome même 2, il y aura un tome 47, 3, un 47, carrément.
Voilà, non, voilà, donc...
L'histoire peut se suffire.
L'histoire en telle, okay. telle qu'elle peut se suffire elle-même, il y a un début, une fin à l'intrigue. Mais il y a des ouvertures pour des suites, si des personnes sont intéressées par ce genre d'univers un peu plus étendu. Et voilà, ça parle... Ça aborde plusieurs thèmes, les complots, l'anticipation, la politique, la souffrance, beaucoup de la souffrance personnelle. Voilà, si vos auditeurs sont intéressés par ce genre de thème, c'est dans le livre.
Merci beaucoup, Adrien.
Ben, je vous remercie.
Ah oui, ça, ça promet. Hein, moi, j'ai très très envie de le lire. Oui, parce que malheureusement, y avait pas le temps pour le lire. Donc, mais je vais me rattraper. Promis, je vais me rattraper et on en reparlera. Parce que je pense que c'est assez intéressant et j'ai bien envie de découvrir ce qui se cache là-dessous. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous le procurer. Et on ne sait pas pour commencer l'été, aux éditions Sud-Arène ou sur Amazon ou sur toute autre plateforme ou même en librairie, commandez-le, faites-vous plaisir. Et sinon, vous pouvez retrouver Adrien Canino sur des dédicaces, il nous en a parlé, donc n'hésitez pas à aller le rencontrer et à découvrir son univers et ce plaisir qu'il a d'écrire. C'était Chaud Devant, TGS Spring Break, avec Adrien Canino. Merci beaucoup Adrien pour l'interview, merci pour la découverte de ton livre « Ceux d'avant, aura et obédience » aux éditions Sud-Arène. Et restez à l'écoute parce qu'il va y avoir d'autres interviews des auteurs de Sud-Arène et aussi d'Imaginerie Edge. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know.